France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
En 2010, la multinationale Unilever, propriétaire de la marque de thé Elephant, annonce vouloir délocaliser sa production française en Pologne. Les 182 salariés de l'usine de production Fralib ont un choix hypocrite à faire. Soit ils partent travailler à l'Est, soit ils sont licenciés. Après 4 ans de lutte contre la liquidation, une soixantaine d'anciens salariés lancent alors leur propre coopérative sous la forme d'une SCOP. Exit les actionnaires d'Unilever et le management néolibéral. Voici désormais la marque 1336, dont le nom fait référence au nombre de jours de lutte qu'il a fallu pour faire plier la multinationale anglo-néerlandaise. Les machines redémarrent finalement en 2015 avec 42 salariés coopérateurs aux commandes. Dans la foulée, le président de la République d'alors, François Hollande, visite l'usine et annonce qu'à l'Élysée, désormais, on boira du thé de la marque 1336. Stylé et pas cher. Dans le même temps, à Carcassonne, les anciens employés de la fabrique du Sud qui prépare des glaces se lancent dans une aventure similaire. Et ce ne sont que des exemples fameux. Aujourd'hui en France, on compte plus de 4000 sociétés coopératives qui génèrent plus de 80 000 emplois et atteignent un chiffre d'affaires de 10,2 milliards d'euros en 2024. Tout de suite, Olivia Muller a rencontré l'une d'elles à côté d'Orléans dans le Loiret.
Durex ?
Duralex.
Duralex, ah d'accord.
C'est un petit coquin.
Pas du tout.
Les verres incassables de la chapelle Saint-Mémon ? Tu connais pas ?
C'est un verre en fait qui est à la fois solide, qui est résistant, c'est épais. C'est pas un verre du tout de décoration, mais c'est un verre pratique. Qu'on trouve dans tous les troquets, le fameux verre Duralex. Ouais.
Les verres numérotés là, on faisait un jeu à la Crojule, c'est lequel le numéro le plus bas, ça lui met une stiquette. Ah c'est bon, je viens de comprendre, ouais, c'est quoi Duralex ?
Il devait remplir le bro aussi.
Celui qui avait le numéro,
ouais,
le plus bas.
C'est ça.
Ouais, c'est bon, je me rappelle. Ouais, c'est de notre enfance un peu.
Comme tout le monde, on a regardé l'âge au fond du verre. C'est la tradition et des souvenirs mêlés à ma grand-mère qui mêlait son fin de vin rouge avec de l'eau dans son verre Duralex. Voilà.
Moi, vous savez, je suis sénégalaise et j'ai déjà connu ça au Sénégal, le verre. D'ailleurs, à Orléans, j'ai gardé encore un petit verre Duralex.
Et c'est une forme qui est très simple, mais elle a son chic. Hein, voilà.
François Marciano, je suis le directeur général de Duralex Coop SA. J'étais dans une verrerie du nord de la France, j'y étais 30 ans. Et puis, cette entreprise a été rachetée par un Américain. Et j'étais plus en phase avec leur vision et leur façon de faire. Du coup, je cherchais un nouveau poste. Et en fait, j'avais un camarade à moi qui était arrivé comme directeur industriel chez Duralex. Et ce camarade me casse les pieds en disant « Mais François, viens voir ici. » Et en fait, il me proposait d'être directeur exécutif. Et je viens faire le tour de l'usine. Et là, je découvre une usine, mais Zola. C'était Zola. Enfin, je dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette usine. Je dis, mais ils ont arrêté le temps. Je ne comprenais pas. Je constate que les règles basiques d'une entreprise sont pas respectées. Donc, les gens fument n'importe où. Dans les bureaux, il y a des seaux parce qu'il pleut. Qu'il n'y a pas de chauffage, que les machines sont bricolées. Enfin, je dis, il y a un problème. Donc, j'en parle au copain, puis il me dit, ben oui, il dit, c'est le problème, c'est que l'entreprise a été reprise plusieurs fois, elle a été pillée, mais jamais personne n'a mis d'argent sur la table pour développer cette entreprise. J'habite Arc, hein, entre Calais et Lille, à 400 km de Duralex. Et donc, je rentre, j'en discute avec ma femme. Hein. Vous imaginez bien, je vais partir à la semaine, je reviendrai que le week-end. C'est un peu compliqué. Donc je négocie avec elle, et puis finalement elle dit, bon, ben, d'accord, écoute, vas-y. En fait, ce qui m'a convaincu, c'est tout simple. Je venais de faire 30 ans dans la verrerie, je savais ce qu'il y avait à faire et je savais ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'arrive chez Duralex et ce que je ne savais pas, c'est l'état financier de l'entreprise, en fait. Très, très rapidement, hein, j'ai découvert que cette entreprise était surendettée, quoi. Avait déjà 40 millions de dettes et c'était foutu, quoi. Parce que trouver un repreneur, c'est très, très compliqué. Puis finalement, on a eu Pyrex, hein, donc la Maison Française du Verre, qui est venue et qui a dit go. Bon, j'ai dit c'est génial, hein, un verrier. Ils ont redéposé là en 2024, en redressement judiciaire, donc ça n'a pas été le bon cheval. Alors, 2024, hein, je m'en souviendrai toujours, c'était le 24 avril au soir, hein. On m'appelle et on me dit, ben François, on va te déposer demain au tribunal. Donc je vous dis pas, il est 20h le soir, vous êtes dans votre appartement tout seul, et vous savez que demain, vous allez devoir dire aux 228 salariés, c'est terminé, on nous redépose. Imaginez, parce que ça fait plusieurs fois, eux, ils pensaient qu'avec Pyrex, ils étaient sauvés. Et là, dans votre chambre, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les salariés l'ont très, très, très mal pris, parce qu'on a mari et femme, nous, dans l'entreprise, hein, qui se disent, mais demain, on n'a plus de travail. Donc, en larmes. Vous avez des gens qui sont dépités, des gens qui disent, ça recommence. Enfin, en fait, ils vous regardent. Donc, vous vous dites, mais je peux pas laisser cette entreprise, quoi. Enfin, c'est pas possible. Si je le fais pas, qui c'est qui va le faire? Enfin, elle va aller au tapis. Puis, ben, quand vous avez 30 ans de métier, vous avez un carnet d'adresses. Puis, ben, les copains du carnet d'adresses vous disent, mais enfin, François, en un mois, on sait pas reprendre une boîte, quoi, de cette taille-là, quoi. Enfin, analyser les chiffres, le marché, etc. Ben non, François, tu sais bien qu'on peut pas venir, quoi. Enfin, c'est pas le délai trop court. Et au bout de deux jours, je dis, mais François, mais t'es con. Analyse, regarde. Si tu refais la même chose, les mêmes causes, les mêmes effets. Donc, il faut plus prendre un actionnariat. Et l'usine a été pompée depuis 30 ans. Il y a aucun investissement. Ça peut pas marcher. Et puis, je savais qu'il y avait des coopératives. Mais vraiment, c'est tout ce que j'avais en tête, hein, qu'on pouvait reprendre soi-même en coopérative. Donc je dis, je vais me renseigner. Le lendemain, je convoque donc les syndicats, CFDT, FO et CGT, autour de la table, puis je dis, voilà les gars, il y a peut-être une solution. Ce serait de faire une coopérative qu'on reprenne l'entreprise de nous-mêmes. Donc là, grand silence, hein, vous imaginez. Hein. Et puis, rapidement, ils me disent, non, mais il y a les SCOP. J'ai dit, c'est quoi les SCOP, hein? Non, si, François, Société Coopérative Participative, tu connais pas? Non, je connais pas du tout. Le lendemain, ils me font venir Florence Delacroix, puis Vincent Javicoli de l'URSCOP, qui viennent expliquer ce qu'est une SCOP. Comment ça fonctionne, comment... Donc ils m'expliquent qu'on y a passé quasiment 4 heures, hein, et puis je dis, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Un modèle où l'argent va rester dans l'entreprise. En tout cas au début, avant même d'être versé aux associés. Salariés associés, hein. Et en fait... Quand on a compris le système et comment c'est structuré, en fait, c'est extrêmement simple. Dans une SCOP, vous avez des associés. Donc, un peu de col blanc et beaucoup de col bleu. J'ai dit, l'argent va rester dans l'usine. Il faut investir dans cette entreprise pour qu'elle puisse grandir. Il faut sortir des nouveautés. Il faut produire, créer et vendre. Et très rapidement, j'ai su qu'on avait pris la bonne décision parce que j'avais accès aux offres concurrentes. Et là, je m'aperçois que les deux autres, ils licenciaient. L'un, c'était 50 personnes et l'autre 80, quoi. Enfin, donc, ils licenciaient beaucoup. Donc, ouais, j'étais immédiatement convaincu, c'était la seule solution pour Duralex. Et bah, on a eu 140 salariés qui ont dit « Ok, bah, nous, on veut faire un scope ».
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, je demande aux salariés de mettre 500 euros de capital, impérativement, hyper vite, pour reprendre l'entreprise. Donc, on allait voir les salariés, on leur demandait de faire le virement, enfin, ou qu'ils amènent. Alors, en plus, on avait fait des erreurs parce qu'on savait pas. Mais il y en a, par exemple, qui nous amenaient de l'espèce. Mais le tribunal, lui, il accepte pas. Donc, faut leur dire, non, on veut un chèque. Alors, certains, ils donnaient chèque de la mère ou de la femme, qui est pas au même nom, mais ça ne correspond pas. Enfin, bon, c'est tout des anecdotes, mais c'est hyper compliqué. Parce que là, vous devez rendre, une semaine après, le capital, les statuts. Vous devez arriver au tribunal avec votre dossier, votre projet industriel, votre business plan. Comment vous le financez? Avec qui? Et puis, ensuite, vous devez avoir un numéro de SIRET. Vous arrivez, vous donnez 140 cartes d'identité. vous imaginez. Et en face de nous, on a l'État qui ne savent pas ce que c'est qu'une scope. Donc, mon Dieu, mais comment on fait ça? Enfin, bon, c'est vraiment le parcours du combattant. Effectivement, déjà je dors pas beaucoup, mais alors là, je peux vous dire que j'ai passé quelques nuits blanches, oui. Moi, j'ai passé quelques nuits blanches. Nous, c'était des journées de 20 heures par jour, où il fallait rendre tous les dossiers, tous les documents. Ben, vous buvez que de l'eau, vous devez être strict et avoir une hygiène de vie irréprochable pendant cette période qui est très, 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 très intense, en fait. Et puis, de pas se tromper, parce que c'est toujours pareil, hein. Vous avez d'un côté tous les salariés qui vous regardent, donc on joue pas, hein. À un moment donné, vous avez quand même 236 emplois industriels, mais après voilà, vous reprenez une entreprise comme Duralex. Ça veut dire, vous reprenez au 1er août et vous allez le 26 du mois faire un chèque d'1 million d'euros pour les salaires. Va falloir payer le gaz, va falloir payer l'électricité, va falloir payer les matières premières, les emballages, etc., etc. Donc, on va voir les banques, chercher 15 millions. Puis là, ben, les banques, imaginez, hein, vous, ah ben non, mais vous avez fait 6 dépôts de bilan, monsieur Marceno, vous allez être le 7e. Voilà la réponse. Mais je leur dis, mais non, mais moi, c'est pas le même projet, etc. Très, très compliqué. Puis là, vous avez le Crédit Agricole qui dit, mais moi, je crois en vous, on va mettre 1 million. Bon, ça y est, premier million, là. Mais c'est pas suffisant, il vous faut 15 millions hein, au départ. Puis personne. Donc je vais à Bercy, j'explique mon dossier à Bercy. Bercy dit, je vais vous donner 583 800 euros à 11%. Vous dites oui, hein, parce que de toute façon vous avez rien d'autre, donc ça fait 1,5 million. Donc, bah, on est foutu, quoi, hein, c'est pas possible, on peut pas reprendre. Et là, on décide d'aller voir la métropole et le patron de région. Et là, ils me disent, oh là, ce projet-là, il nous plaît. Mais François, nous, c'est de l'argent public, il va falloir que tu passes à la moulinette. Et ils appellent des experts en comptabilité, des experts en marché, des experts verriers. Et donc, je suis audité commercialement, etc. Pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait là. Et là, le maire d'Orléans, hein, président de la métropole, dit la seule solution pour financer, c'est de racheter le site. Donc, il dit on va racheter 5,8 millions. Et donc, tous les maires disent OK, go.
Christelle, 57 ans, responsable logistique chez Duralex Scop. La marque, plus que les repreneurs, la marque nous a toujours sauvés. Et on le prouve une fois de plus. La marque nous a encore sauvés. Ça fait très très longtemps qu'on est là. On se connaît énormément. On a énormément l'habitude de travailler ensemble. Je dirais que c'est limpide.
Donc je m'appelle Pâquerette, je vais avoir 56 ans cette année. C'est un peu une famille, entre guillemets, dans l'atelier où je travaille. Hein, parce que moi je suis adjointe chef d'équipe, donc on côtoie tous les gens de l'atelier et moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance.
Moi j'ai été convaincu tout de suite parce que avec mon passé de comptable, j'avais peut-être... je comprenais en fait les avantages de la Scop et j'ai adhéré tout de suite, sans crainte. Surtout à l'usine, j'ai trouvé des gens qui s'entraident un petit peu. Y a ça.
C'est un miracle. Parce qu'avant, on a pensé c'est fini, il va fermer l'usine. Et moi, ma femme, elle va aller à Pôle emploi pour chercher le chômage. Mais maintenant, on est content parce qu'on travaille pour nous. Je pense que ça change tout.
Vous venez d'où ?
Arménie. Oui, Charles Aznavour. Mon métier, c'est conditionnement. Mon âge, c'est 67. Mon prénom, c'est Alexandre.
Moi, j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet des collèges. C'est une fierté d'être ici. Le verre en fusion, le mélange, la composition, la puissance utilisée, gaz, électricité. C'est le top. Je veux dire que c'est le top.
Bah maintenant, on est content. On est très content de la Scop. Très fier, très content. Et tout le monde connaît. Tout le monde connaît, même mes amis connaissent la marque et tout. Et voilà, ça se passe super bien. On dépend de nous-mêmes maintenant. Et j'espère que ça va continuer. Morgane, 39 ans, opérateur, sondeur et remplaçant mécano.
Alors, après, j'avais un gros point faible dans mon dossier. J'avais quand même quelque chose d'extrêmement faible, c'est que, je l'expliquais tout à l'heure, pour reprendre l'entreprise, il fallait trouver des débouchés commerciaux. Donc, revendre les produits partout dans le monde, mais moi, je sais pas faire. Moi, c'est pas mon métier. Moi, je sais tenir une entreprise, je sais faire pas d'accident, je sais économiser le gaz, ça, je sais faire, et fabriquer du verre. Mais vendre... C'est pas mon métier. Et tout à fait par hasard, mais vraiment tout à fait par hasard, il y avait Vincent Vanin qui avait redéposé son CV, ancien dirigeant de Brandt, qui avait une connaissance parfaite du commerce international. Et c'est ce qu'il fallait. Il fallait quelqu'un qui puisse reprendre cette marque Duralex et l'amener là où elle doit aller. Les salariés étaient dans le doute, et les salariés de Duralex sont pas, sur une émotivité forte. Vous avez passé 6 dépôts de bilan, hein, donc hélas, ils sont un peu habitués, quoi. Hein, donc et se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. C'est François qui fait, il cherche des sous. Ça reste abstrait pour eux. Sauf que le jour du tribunal, ils étaient tous dans la salle. Et c'est à ce moment-là, en fait, le juge rend leur verdict. Donc vous avez 3 concurrents. Hein, et pendant toute la plaidoirie et pendant tout le délibéré, le président du tribunal prend point par point. Et donc dit... sur le plan de reprise des salariés, la Scop est première. Sur le plan industriel, la Scop est première. Sur le plan du projet, la Scop est première. Et à chaque fois, il fait ça. Il dit, la Scop est première, la Scop est première, la Scop est première, la Scop est... Donc déjà, vous voyez la tête des salariés qui redressent la tête, tous. Hein. Et puis, à la fin, vous avez le président qui dit... Nous donnons donc l'entreprise à la Scop. Et là, vous avez un hurlement dans la salle de tous les salariés. Et là, je peux vous dire que ça vous retourne, quoi. Hein. Vous avez beau faire le dur, vous êtes retourné, quoi. Hein. Vous dites, j'ai bien fait. Bon, en sachant que le juge commissaire et le président du tribunal hein, sont venus me saluer, féliciter, etc. Puis ils m'ont dit, en regardant Vincent Vallin et moi, en disant, messieurs, ça vous oblige. Alors, effectivement, la SCOP est créée. Donc, on vous l'annonce, on est le 27 juillet, hein, donc on reprend 1er août. Et le 1er août, je fais le tour de l'usine. Parce que je dis, je vais saluer les salariés, puis prendre un peu la température. Puis là, j'arrive, puis j'ai dit, bah merde, alors tout est éteint. Donc, je chope les gars, puis je dis, bah les gars, vous avez éteint. Bah ouais, François, on éteint une lumière maintenant, hein, c'est à nous. Hein. Voilà la différence. La différence est là, quoi. C'est que, comme c'est à eux, ils font attention à tout, ils essaient de pas dépenser, fermer toutes les vannes de gaz, enfin, un comportement complètement différent. Donc, que du bonheur, parce que quand vous avez ça, vous avez l'équipe avec vous, comment perdre? Tout le monde est à 120%. C'est ça, en fait, la différence, hein. C'est que le comportement est devenu, on est des associés, on travaille pour nous. On travaille pour l'entreprise, on travaille pour gagner. Donc le conseil d'administration, mais c'est à l'unanimité. C'est d'abord, ils sont très posés. Je dis toujours, ils ont le BSP. Alors tout le monde me dit, mais c'est quoi le BSP, François? Mais ils ont le bon sens paysan. C'est-à-dire qu'ils se posent tous ensemble et ils posent les bonnes questions. Et quand vous avez des salariés qui ont du bon sens, ça va tout seul. Globalement, aujourd'hui, nous, on voit bien le marché mondial, comment il est en train d'évoluer, comment on est contacté de partout pour Duralex. Hein, mais quand je dis de partout, on est appelé par la ministre en Italie, par la ministre d'Espagne. Comment on peut vous aider? Et en plus, quand les Français ont su que Duralex était en difficulté, j'ai commencé à recevoir des courriers. Bonjour monsieur, bravo pour ce que vous avez fait, etc. Voici un chèque, je voudrais juste un saladier et 6 verres. Puis le chèque, vous avez 180 euros. Et puis en fait, quand vous lisez la fin du courrier, c'est la différence, c'est pour que vous mettiez dans la SCOP pour soutenir l'entreprise. Mais un soutien extrêmement fort de la part des Français, alors c'est gigantesque. Et du reste du monde qui ne veulent pas voir disparaître Duralex, quoi. Et ensuite, c'était une discussion avec le patron de la métropole, maire d'Orléans. Mais François, il dit, mais pourquoi tu fais pas une boutique, une boutique d'usine? Et puis je lui dis, mais ici j'ai pas l'argent pour investir, c'est prévu, hein, on va faire visite d'usine et faire un magasin d'usine, mais on n'a pas les finances pour l'instant, on verra ça dans 2 ans, une fois on ira mieux, on investira. Et puis lui il me dit, mais il y a bien un pas de porte qui est libre quelque part à Orléans. Il dit, je me renseigne. Donc, quand il dit « je me renseigne », c'est que 2 heures après, il a pris la décision, quoi. Donc, il m'appelle et puis il dit « Bon, François, c'est vu, t'as un pas de porte au Châtelet, on t'envoie le loyer, tu peux ouvrir jeudi. » J'y commence à ouvrir jeudi, mais il me reste 4 jours, quoi. Et vous avez les équipes de Duralex. Alors, imaginez un combat romain. Vous avez tout le monde aligné, ils ont mis les palettes alignées, ils mettaient les prix, enfin tout était orchestré, mais ça a été épique. Hein, et le jeudi matin, on ouvrait. On a ouvert le 14 décembre, et le 30 décembre, on avait fait 390 000 euros de chiffre d'affaires. Donc imaginez, hein, quand vous vendez 10 euros vos 4 verres là, ou 6 verres, enfin voilà, c'est faut en vendre. Hein. Et donc ça faisait la queue sur les 3 caisses toute la journée, du matin au soir. Quoi. Et c'est les employés de Duralex qui tiennent le magasin. Ça fait chaud au cœur. Hein. J'avais une dame, puis elle dit, monsieur Marciano, elle dit, je n'en reviens pas qu'il y ait une boutique, je n'en reviens pas. Mais je dis, mais pourquoi vous en venez pas, madame? Puis elle me dit, mais vous savez pas, ça fait 10 ans que j'achète que du Duralex dans les brocantes, je croyais que ça n'existait plus.
Ouais, monsieur, merci. C'est nous. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Les premiers mois, là, c'était bondé de monde du matin au soir, quoi. J'ai dit ça, c'est formidable. Et tout le monde s'est mis à en acheter. Ça a touché toute la ville d'Orléans. Hein. C'est dingue, ça. Hein.
Là, on part en Bretagne pour quelques jours. Et donc, on va retrouver des amis là-haut. On leur remet là un petit cadeau très local et très...
Je pense qu'on va choisir les verts Prisme. Oh. Comme ils sont en Bretagne, le bleu, moi j'aime bien le bleu, je pense qu'eux aussi. Comme c'est des gens qui se démènent pour leur avenir et pour leur entreprise, c'est bien.
Oui, ils ont eu des passages difficiles, que les bénéfices soient orientés plutôt vers ceux qui produisent que vers ceux qui ont juste des investissements financiers à faire. Ça, on recherche ce genre de...
Parce que les actionnaires, c'est bien gentil, mais bon... l'histoire de Scope, là, c'est quand même bien.
Vous voulez le ticket de caisse aussi ?
S'il vous plaît.
C'est des matériaux, j'allais dire le verre, matériaux nobles, simples, sains et durables. Enfin voilà, si ça peut durer, eh ben, Duralex, ça.
C'était Duralex, quand les salariés sauvent leur entreprise. Un reportage d'Olivia Muller réalisé par Perret Legras. Merci à François Marciano et aux salariés de Duralex. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
And the muscular cyborg German dudes dance with sexy French Canadians.